Montauban d'avant.
Entre nous, à quoi penses-tu en général?
À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.
Montauban d'avant.
Montauban d'avant.
Montauban d'avant.
Quoi? Sophie d'avant?
C'est pas ça. C'est les personnages célèbres de Montauban d'avant.
Ah, d'accord.
J'ai tout compris là, j'ai tout gépi.
Par la classe de CM2B de l'école Jean Moulin.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Montauban d'avant. Dans cette émission, nous allons essayer de vous en apprendre un peu plus sur les personnages célèbres qui ont fait la renommée de notre magnifique ville qu'est Montauban.
Un projet mis en place par le Centre du patrimoine au sein de l'école Jean Moulin en partenariat avec Radio Asso. Sans plus attendre, nous allons débuter avec un petit papier réalisé par Lisa, Iliès, Aïcha, Tasnim et Tiban.
Nous sommes allés regarder les maisons des personnages célèbres, comme par exemple Marie-Roginest, Louis Sabatier, Adolphe Poult ou encore Émile Poult. Nous avons aussi découvert l'histoire de Marius Valerio, âgé de 15 ans, qui a été assassiné le 19 août 1944 par les Allemands. Ça m'a fait de la peine pour lui car il est mort très jeune. J'ai un peu envie de parler de Montauban. Montauban est une ville d'art et d'histoire et il y a eu plein d'héros. En 1930, il y a eu une terrible inondation à Montauban.
Émile Poult, un fabricant de biscuits de Montauban, a créé les fameux biscuits Poult. Son fils, nommé Adolphe Poult, fit preuve d'un grand courage lors des inondations de Montauban en mars 1930. L'eau était montée à 11,50 m de haut.
Il a sauvé une centaine de personnes sans s'arrêter. Puis sa barque a chaviré et il a été emporté par le courant et il est donc mort en 1930 à 34 ans. Cette inondation a fait 25 morts, 600 000 sinistrés et des milliers de maisons détruites. Cet héroïsme m'a beaucoup marqué, je trouve ça extraordinaire de sa part.
Il a eu droit à une statue et à une vitraille le représentant en train de sauver des gens. J'étais impressionnée et triste, mais très fière que notre ville ait connu un tel héros. Et je retiendrai son nom à jamais.
Nous nous souvenons encore de lui. Il a été un super-héros pour Montauban.
C'est en étudiant la Seconde Guerre mondiale que j'ai fait la connaissance de Marie-Rose Ginest. C'était une résistante. Cela m'a étonnée de savoir que Marie-Rose Ginest passait à côté de la Gestapo et de la milice Faubourg du Moustier avec son vélo dans lequel étaient cachés des messages de la résistance. La maîtresse nous a parlé aussi d'une jeune fille appelée Anne Frank.
Anne Frank était une jeune fille de 13 ans juive. Elle se cachait pour ne pas se faire arrêter et a écrit sa vie dans un journal intime.
Si j'étais dans la peau d'Anne Frank, ça serait terrible parce qu'elle était cachée dans un grenier pendant un ou deux ans avec peu de choses et sans bruit.
J'ai été émue d'apprendre qu'elle a été finalement arrêtée et qu'elle est morte dans un camp. Son père a retrouvé son journal et l'a fait éditer. C'est très triste.
On espère que cette mise en bouche vous aura éclairé sur la nature de notre projet. Continuons tout de suite
avec une petite scénette réalisée par Lina et Maïssa mettant en scène Adolphe Poult et Marie-Rose Ginest.
Bonjour Marie-Rose Ginest.
Bonjour Adolphe Poult, comment vas-tu depuis tout ce temps?
Je vais bien et toi?
Je vais bien, tu as fait quoi pendant tes vacances?
Me parle même pas de ces vacances. Le 3 mars, il s'est passé une inondation. C'était un calvaire, je te jure. Je suis partie avec mon canoë et j'ai sauvé plein de gens. Et après, j'ai fait semblant de me noyer.
Et pourquoi t'as fait semblant de te noyer ?
Parce que je n'avais pas envie qu'on me saute dessus comme un super-héros. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?
Moi, j'ai caché des juifs et des radios, puis du matériel.
Tu n'as pas respecté la loi ?
Oui, mais je voulais aider les autres.
Et tu as caché combien de personnes ?
Plein de personnes. Impossible de compter. Et toi, combien ?
Bien moi, j'ai sauvé une centaine de personnes.
Bravo et bonne soirée.
À toi aussi. Au revoir.
Que serait une émission de radio sans publicité ? Je vous le demande.
Alors tout de suite, une courte page de réclame.
Oh non, encore lui. Bonsoir, monsieur Grincheux.
Bonsoir, j'ai entendu qu'il y avait une fête chez vous. Mais je ne suis pas venu les mains vides. Je vous ai apporté du jambon. Du jambon Saint-André.
Le jambon Saint-André, le meilleur jambon pour dégoûter vos voisins. Avec ses 80% de sel en plus et son traitement chimique haute densité, le jambon Saint-André vous assure des reflux gastriques d'une qualité exceptionnelle. Son gras saturé et son élasticité, reconnus par les plus grands chefs, vous apportent plus de fragilité dentaire et de mauvais cholestérol que n'importe quel autre jambon.
Merci beaucoup, monsieur Grincheux.
Jambon Saint-André, la déception assurée.
Disponible uniquement dans les stations-service participantes pour la modique somme de 1 749 € le kilo hors taxe.
Il est temps de faire une petite pause dans votre émission Motoband d'avant et quoi de mieux qu'une petite découverte musicale pour bien en profiter.
Une rubrique préparée et présentée par Julien, Kylian, Lisa et Imran.
Glenn Miller, né le 1er mars 1904 à Clarinda dans l'Iowa aux États-Unis et mort le 15 décembre 1944 à l'âge de 40 ans, probablement au-dessus de la Manche durant la Seconde Guerre mondiale.
À 11 ans, il découvre le trombone et dès l'âge de 14 ans, en 1928, il commence à jouer dans plusieurs orchestres new-yorkais. C'est en 1937, après des années à côtoyer les plus grands compositeurs de jazz, qu'il monte son propre big band, grand orchestre de jazz caractérisé par un bon nombre de cuivres et la présence d'un chef d'orchestre.
Il est tout au long de sa carrière compositeur, arrangeur musical, chef d'orchestre et musicien. Il est à l'origine d'un nombre impressionnant de tubes jazz et excelle également dans la musique de film jusqu'en 1942.
C'est la même année qu'il dirigera le Glenn Miller Army Air Force Band, destiné à remonter le moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 15 décembre 1944, c'est en se rendant en France pour un concert qu'il traversa la Manche. Le petit avion qui transportait le musicien aurait été touché par des projectiles et il aurait péri dans les décombres. C'est pour lui rendre hommage que nous avons décidé de vous faire écouter In the Mood, un morceau composé par Joe Garland et Andy Razaf et dirigé par le grand Glenn Miller. Thank you.
fait, les personnages célèbres de Montauban, ok, mais c'est quoi être célèbre d'abord? Et les Montalbanais, ils connaissent, eux, les personnages célèbres de Montauban?
Allons voir ça directement dans la cour de notre école.
C'est quoi pour toi la célébrité?
Je sais pas.
Je sais pas, c'est d'être célèbre. Je sais pas.
D'être connu, d'avoir de la gloire.
Être reconnu par les gens.
Être connu de tout le monde?
Oula, ça veut dire beaucoup de choses, la célébrité.
La célébrité, c'est vaste. La célébrité, c'est quand on te reconnaît. Alors, il y a de la célébrité pour les bonnes choses et la célébrité pour des choses un peu moins positives, voilà.
Être connu, reconnu pour un talent, quelque chose que l'on sait faire ou que l'on est.
Être célèbre, c'est... que, par exemple, être connu, quoi. Comme par exemple un spectacle, un danseur, c'est connu comme Johnny Hallyday, quoi.
C'est avoir la responsabilité de ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Quelqu'un de célèbre, il doit faire très attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, parce qu'il peut être un modèle, et il peut être un modèle positif ou un modèle négatif.
Quel personnage célèbre de Montauban connais-tu?
Ma préférée, c'est Olympe de Gouges.
Qui je connais? Olympe de Gouges.
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 Olympe de Gouges. Et avant de faire le projet avec vous, aucun autre.
Bourdel.
Antoine Bourdel.
Louis Rabier, l'imprimeur. Et je pense que c'est tout, quoi.
Pendant l'inondation en 1930, Adolphe Pout a sauvé des gens en allant les chercher en canoë. Qu'aurais-tu fait à sa place?
Je me serais mise à l'abri.
J'aurais aimé faire la même chose.
Je trouve que c'est très courageux.
Peut-être la même chose, ou je ne sais pas.
Certainement la même chose.
Je sais pas. J'aurais fait pareil.
La même chose?
J'ai envie de te dire la même chose, mais je n'étais pas née.
Moi, je plongerais, j'irais sauver. Je sais pas trop.
Je crois que j'aurais pleuré. Non, je suis pas sûre d'avoir le courage de Monsieur Poult, en vrai. Déjà parce que je n'ai pas de canoë. Alors sans canoë, c'est plus dur d'aller les chercher. À la nage, j'aurais pas pu. J'aurais eu trop peur.
Un micro-trottoir qui vous a été proposé par
Kylian, Maïssa et Lina. Il est temps pour nous d'en apprendre un peu plus sur une personnalité importante de Montauban.
Monsieur Patrick Fons, un enrobé préparé par Enzo, Aleina, Tiban et Tasnim. Bonjour, pour en apprendre un peu plus sur les personnages célèbres montalbanais, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous, par téléphone, Monsieur Patrick Fons, animateur de la maison du Crieur de Montauban et membre de l'association des Amis de Bourdel. Justement, apprenons-en un peu plus sur ce célèbre artiste.
Antoine Bourdel, alors celui-là c'est mon chouchou. J'en ai d'autres, mais lui c'est mon chouchou. Antoine Bourdel, il est né à Montauban. Son père était menuisier et rapidement, il a donné un coup de main à son père qui réparait des vieux meubles. Et il y a des clients de son papa qui ont remarqué qu'il avait du talent. Tout petit déjà, à 10 ans, 12 ans, il avait déjà du talent. Alors ils se sont débrouillés pour l'envoyer dans une école d'art à Toulouse. À Toulouse, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, comme il était doué, on l'a envoyé dans une autre école encore plus importante, à Paris. Et à Paris, il a commencé à arriver dans le quartier Montparnasse. Il y est toujours resté. Et il y a beaucoup travaillé, il a commencé à avoir des commandes de monuments importants, notamment un pour Montauban, et puis d'autres, etc., etc. Et en 1909, il a fait une sculpture qui l'a rendu célèbre, et que tes grands-parents à toi, Tiban, tes oncles et tantes peut-être, ont croisé sur les cahiers d'écoliers. Cette sculpture, ça s'appelle l'Héraclès archer. C'est un Hercule avec des flèches qui chasse des oiseaux méchants dans la mythologie. Et il y a une marque de cahier qui en avait fait son logo. Ça s'appelait les cahiers Héraclès. À partir de là, il a été très célèbre. Et aujourd'hui, notre Bourdel, qui nous a laissé 10 sculptures dans les rues de Montauban, on en a beaucoup, hein. Notre Bourdel, il a un musée à son nom à Paris, dans la capitale, près de la tour Montparnasse. Voilà ce que je peux dire rapidement de Bourdel.
nous l'avons bien compris, Monsieur Fons est un fan de Bourdel, mais un autre artiste montalbanais tient une place particulière dans son esprit.
Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle François Desnoyers, un peintre et que j'adore sa peinture. Quand il est petit, il dessine, il peint, mais ses parents, ils l'encouragent pas. Alors qu'il est doué, et ils aiment pas trop. Mais il y a un grand-père, heureusement, qui a repéré qu'il avait du talent. Et alors le talent du petit, il va un jour décider d'aller à Saint-Antonin avec un de ses dessins. Et qui c'est qu'il y a à Saint-Antonin? On rebondit sur ce qu'on vient de dire. Il y a Antoine Bourdel qui est en vacances. Et le grand-père, il le connaissait. Et donc il amène son petit-fils avec un dessin, déjà très, très bien fait, et il montre ça à Bourdel. Et Bourdel va dire « Ouh, mais il est doué ce petit, envoyez-moi-le à Paris ». François Desnoyers, il a alors 17 ans, et il va monter suivre les cours de Bourdel à Paris.
La maison du crayeur de Montauban n'a pas toujours été un lieu culturel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a eu une toute autre utilité.
Ce que je sais, c'est que quand ils ont fait des travaux, dans les années 2000, puisque c'était un vieil hôtel qui a été un hôtel-restaurant, et pendant la guerre, donc, il y a eu, apparemment, on a caché des familles, des enfants juifs. Et quand on a fait des travaux dans les années 2010, dans le plancher, ça bougeait. Et ils ont enlevé les planches du sol et ils ont trouvé une cache avec un lit. Et même plus qu'un lit, dans le sol. Où la famille avait dû se cacher pendant la guerre.
Peu de Montalbanais savent que la Joconde est passée par notre ville. Monsieur Fons nous raconte cette histoire.
Alors là, on est en 1939 et à Paris, on commence à s'inquiéter, on sent arriver les Allemands, et les Allemands, ils veulent nous voler des centaines et des milliers d'œuvres d'art. Et une nuit, il y a plusieurs camions qui sont remplis de grands tableaux, et dans ces tableaux, il y a la Joconde. Les camions, ils descendent, ils quittent Paris, et ils arrivent dans le sud de la France, où il n'y a pas encore les nazis, les soldats allemands, et ils cachent les tableaux d'abord dans un château dans le Lot, mais c'est très humide. C'est pas bon pour la peinture, pour les toiles. Du coup, ils se renseignent, ils savent qu'il y a un musée à Montauban. Donc, ils disent un musée, c'est idéal. Et les tableaux, ils arrivent à Montauban. Parmi tous ces tableaux, donc, il y a la Joconde. Et on va la garder pratiquement 2 ans au musée Ingres, cachée dans un recoin pendant la guerre, pour pas que les Allemands la volent.
Montauban est une ville qui a vu naître de nombreuses célébrités au fur et à mesure des années. Et notre époque ne fait pas exception.
Alors, il y en a toujours eu. Par exemple, moi, dans les grands artistes que j'aime bien, il n'y a pas que des artistes, mais dans les artistes, on commence avec Ingres, puis après, il y a eu Bourdel, puis après, il y a eu un Marcel Noir, qui est un musée à Moricou, puis il y a eu un François Desnoyers, qui, lui, est un musée à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, et puis il y a eu un Robert Lapoujade, dont on pourrait parler un autre jour, qui était très doué, etc., etc., et ça continue. Alors moi, j'en ai un peintre, après, il n'y a pas que des peintres et célèbres, j'ai un peintre qui s'appelle Jean-Claude Fournier, et accent aigu, et pour moi, c'est notre grand artiste du moment. Un de nos grands, on va dire.
Nous remercions Patrick Fons d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous espérons que vous avez appris des choses sur notre belle ville grâce à nous. À bientôt.
Après tous ces efforts, on avait vraiment besoin de s'amuser un peu.
C'est l'heure de votre quiz dans votre émission Motoban d'avant.
Et on se retrouve pour notre jeu exceptionnel sur les célébrités montalbanaises. Deux équipes qui s'affrontent, ils sont vraiment au taquet, ils sont à fond, prêts à se poser des questions terribles. Alors déjà, je vais vous demander de vous présenter. Équipe 1, l'équipe des filles, présentez-vous.
Aïcha, Léona.
Ok, super. Aïcha et Léona, l'équipe des garçons, présentez-vous.
Nassim, Ilyes. Alexis.
Nassim, Ilyes et Alexis, les trois concurrents de l'équipe des garçons, l'équipe numéro 2. Sans plus attendre, nous commençons le jeu avec les filles. Les filles, première question.
Quand t'as élu la plus grande inondation de Montauban?
En 1930, le 3 mars.
Bonne réponse.
Bonne réponse des garçons, une première bonne réponse le 3 mars 1930. Et on passe à la première question des garçons aux filles.
Par qui Louis Sabatier a-t-il été fusillé en 1944?
La milice,
c'est une bonne réponse.
Bonne réponse des filles, ça fait donc un point pour l'équipe des filles. Et maintenant, nous retournons à l'équipe des garçons. Allez-y les garçons, deuxième question.
où la Gestapo et la milice avaient leur bureau à Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale.
Faubourg du Moustier.
Faubourg du Moustier.
C'est une bonne réponse.
Bonne réponse, deuxième bonne réponse pour les filles. Bravo les filles. Alors maintenant les filles, c'est à vous de vous venger. Posez une question aux garçons, c'est maintenant.
La Joconde a été cachée pendant la guerre au musée Ingres. Comment appelle-t-on aussi ce tableau ?
Elle s'appelle Mona Lisa.
Mona Lisa.
Bonne réponse.
Bonne réponse des garçons. Alors là, attention, on a des équipes vraiment extraordinaires, ça n'arrête pas. Les filles, on repart sur vous pour une nouvelle question aux garçons.
À quoi la maison du peuple de Montauban servait-elle pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Avoir la nourriture, avoir puisqu'on avait des cartes de rationnement, on les donnait, ils nous donnaient à manger.
Bonne réponse.
Troisième bonne réponse pour l'équipe des garçons, et c'est à vous, les garçons, de poser une nouvelle question.
Comment Jean Moulin est-il mort ?
Jean Moulin est mort sous la torture.
Bonne réponse.
C'est donc troisième bonne réponse pour l'équipe des filles. Quatrième question des garçons, c'est quand vous voulez.
Sur la plaque pont des consuls à Montauban, on apprend que le résistant André Etcheverlepo est mort tué par un milicien. De quoi s'occupait-il ?
Il cachait des armes interdites ou des juifs ?
Mauvaise réponse. Il s'occupait de parachutage.
Il s'occupait donc des parachutages pour la résistance. Voilà, donc là on est à 3 points pour les filles sur 4 questions, 3 points pour les garçons sur 3 questions, il me semble. Une nouvelle question des filles. On y va les filles.
Le 19 août, pendant la libération à Montauban, un jeune homme de 15 ans appelé Marius Valerio a été tué sans raison. Où se trouve la stèle qui lui rend hommage ?
Ils n'ont pas la réponse à cette question, les garçons. Les filles, quelle était la réponse ?
À côté de l'école, sur le chemin de la matrace.
Alors attention, vous êtes, chaque équipe est à 3 points. Donc là, avec cette dernière question, vous allez vous départager. Allez-y les garçons.
Comment Monseigneur Théas est-il devenu célèbre ?
Je pense que c'est parce qu'il aidait Marie-Rose Ginest à cacher les juifs.
Non, c'est une mauvaise réponse.
Mauvaise réponse ? Alors quelle était la bonne réponse les garçons ?
Il était résistant et il a écrit une lettre pour dire qu'il n'était pas d'accord pour dénoncer les rafles de juifs.
Ah, c'était bien précis, effectivement. C'était compliqué, cette réponse. Les filles vont rester à 3 points. Là, les garçons, c'est la dernière tentative. Attention, les filles, posez votre question aux garçons.
Marie-Rose Ginest était une résistante. Elle portait des messages secrets avec son vélo aujourd'hui. Où son vélo est-il exposé ?
En musée d'exposition à Israël.
Bonne réponse.
Et ce sont les garçons qui gagnent ce quiz spécial célébrité. Bravo à vous les garçons. Les filles, bravo aussi. Vous avez été très bonnes joueuses. Vous avez posé de très bonnes questions et surtout donné de très bonnes réponses. Donc on vous remercie les deux équipes, l'équipe des garçons, l'équipe des filles. On vous souhaite une excellente fin d'émission en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau quiz.
Tout au long du projet, nous avons été accompagnés par Carole Corniou, médiatrice du patrimoine de la ville de Montauban.
Elle est avec nous aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur elle et sur son métier. Bonjour Carole, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, je travaille au Centre du patrimoine, je suis médiatrice. Donc mon métier, c'est de faire découvrir le patrimoine de Montauban, son histoire, à tout le monde, aux adultes, aux plus âgés. Et surtout aux enfants.
En quoi consiste votre métier et depuis quand l'exercez-vous ?
Alors, je suis médiatrice du patrimoine depuis 20 ans maintenant. Au départ, j'étais guide conférencière, donc je faisais les visites surtout. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'occuper des enfants. Et donc, maintenant, mon métier, c'est surtout de créer des ateliers ou des visites pour faire découvrir le patrimoine, d'avoir des relations avec les enseignants hein, pour leur indiquer ce que nous faisons et comment les enfants peuvent venir participer à nos activités.
Qu'appréciez-vous le plus dans votre métier ?
Bah, c'est le contact avec les personnes et surtout avec les enfants. J'aime particulièrement ce contact de pouvoir leur donner ce que je sais et puis leur faire découvrir aussi, leur faire ouvrir les yeux sur ce qui les entoure. Voilà.
Et à l'inverse, qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ?
Non, je crois qu'il n'y a rien que je n'aime pas dans mon métier. Tout me plaît.
Quel a été votre parcours scolaire ?
Alors, j'ai fait une faculté d'histoire de l'art. Donc, j'ai étudié l'histoire de l'art à Lyon. J'ai une maîtrise. Et puis ensuite, j'ai passé un examen pour être guide conférencière. Voilà, tout simplement. Je suis arrivée ensuite à Montauban, au Centre du patrimoine.
Est-ce que l'histoire était votre matière préférée à l'école ?
Oui, tout à fait. L'histoire était ma matière préférée, avec la littérature aussi. Voilà, j'aimais beaucoup la littérature, mais l'histoire en particulier depuis tout petite.
Comment en êtes-vous arrivé à créer le projet sur la piste des Montalbanais avec l'école Jean Moulin ?
Alors, sur la piste des Montalbanais est un atelier que j'ai créé il y a quelques temps maintenant. Et puis, j'ai fait un stage, une formation, où j'ai rencontré les personnes de Radio Asso. Et ça m'a donné l'idée de faire un projet qui lirait les deux thématiques, la radio et puis les personnages célèbres. Et puis comme j'aime bien l'école Jean Moulin, en fait, donc j'ai appelé maîtresse Nadine et on a décidé de faire le projet ensemble.
Quel est votre personnage célèbre préféré de Montauban et pourquoi ?
Alors comme beaucoup de personnes, je vais dire Olympe de Gouges, tout simplement parce que c'est une femme. Et qu'il y a très peu de femmes personnages célèbres, à Montauban et ailleurs. Donc, comme je suis un petit peu féministe, j'aime bien pouvoir mettre en valeur ces femmes qui ont été très courageuses et qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour leur pays et pour les autres en général. Il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Donc, celles-ci, elles permettent justement de mettre en valeur tout ce travail qui est fait par des milliers de femmes.
Merci, Carole.
Merci à vous.
Votre émission Montauban d'avant touche à sa fin. Nous tenions à remercier maîtresse Nadine, Carole Corniou et Radio Asso de nous avoir embarqués dans cette aventure.
Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre programmation habituelle sur Radio Asso.
Au revoir !
Montauban d'avant.
Entre nous, à quoi penses-tu en général ?
À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.
Montauban d'avant.
Montauban d'avant.
Montauban d'avant.
Quoi ? Sophie d'avant ?
C'est pas ça. C'est les personnages célèbres de Montauban d'avant.
Ah, d'accord.
J'ai tout compris là, j'ai tout gépi.
Par la classe de CM2B de l'école Jean Moulin.